France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Quentin Péchard, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Théa Corler. Réalisé par Cassandre Puel, à la technique ce matin, c'est Noé Chabanne. C'est le deuxième volet de notre série consacrée au monde face à Gaza. Regardez Gaza en face. Aujourd'hui, visage, mémoire et voix de Gaza. Ou si l'on ose ausculter les décombres, disait hier Jean-Pierre Filu, on peut apercevoir la vie s'infiltrer malgré tout, têtue. Et les enfants continuent à courir.
Dis-nous, qu'est-ce que tu as pêché aujourd'hui ? Dis-moi, qu'est-ce que tu as pêché ? Du mulet ? Qu'est-ce que tu as pêché, Ali ? Montre-moi ton poisson.
Je soigne ces enfants bénévolement pour réduire les charges des familles en me débrouillant pour trouver des anesthésiques afin de traiter leurs dents. J'ai toujours porté des vêtements colorés, parfois avec des dessins pour les enfants. Ainsi, quand ils arrivent chez moi, ils se sentent comme dans un jardin d'enfants.
La seule chose qui me détende au milieu de cette situation catastrophique, c'est la musique. Quand je me sens fatigué, je ne peux me plaindre à personne, car tout le monde ici partage le même malheur. Je prends ma guitare pour jouer. Ça m'aide à m'évader.
Nous sommes frappés d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Déclamé en 2002, le poète palestinien Mahmoud Darwish, espoir de libération et d'indépendance, espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes, espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école, espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et pas à un enfant mort devant un poste de contrôle militaire, espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. « Que ma mort apporte l'espoir », écrivait comme en écho le jeune poète Refat Alarer la veille du bombardement israélien qu'il a laissé à jamais sans mots, comme tant d'artistes, écrivains, plasticiens, libraires, professeurs, dont Jean-Pierre Filu nous disait hier qu'ils étaient ceux qui, avant la guerre et depuis 2007, contestaient le contrôle d'Israël sur leur vie, mais également la domination du Hamas, le cauchemar dans le cauchemar. Résister contre la mort et contre l'effacement, se sont jurés les artistes qui sont toujours en vie et celles et ceux qui ont quitté Gaza et qui portent au monde la voix des Palestiniens sur place, refusant l'image d'un territoire qui ne serait que mort, que destruction, que désespoir, et parlant des Palestiniens de Gaza comme aimant la vie, comme tout le monde, pour peu qu'ils en aient les moyens. Encore les mots de Mahmoud Darwish. Bonjour Véronique Bontemps.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de recherche au CNRS en anthropologie, spécialiste du patrimoine culturel palestinien. Vous avez co-dirigé l'ouvrage « Gaza, une guerre coloniale » avec Stéphanie Latabdallah et paru chez Actes Sud dans la collection Sinbad. Bonjour Yad Alastal.
Bonjour.
Merci beaucoup et bienvenue dans ce studio de Culture Monde. Vous êtes réalisateur du film documentaire Pour l'honneur de Gaza, aussi des Gaza Stories. Vous êtes originaire de Gaza que vous avez quitté en février 2024, avant la guerre, avant cette guerre-là en tout cas. Vous travaillez pour des médias francophones, vous tourniez des épisodes pour Gaza Stories. Quand avez-vous décidé de partir, Yad Alastal ?
J'ai pris cette décision quand j'ai presque perdu l'espoir d'une vie normale à Gaza. Moi, j'étais toujours à Gaza, j'ai travaillé là-bas, j'ai mené ma vie, j'ai travaillé, j'avais toujours ma place là-bas, comme professeur, comme cinéaste, comme réalisateur. Mais une fois que la guerre elle a déclenché, je voulais rester avec ma femme, mes enfants, avec ma famille, avec mes proches. Mais une fois que la guerre elle a commencé d'être atroce, déjà depuis le début, la guerre était atroce. Donc c'était une décision qui n'était pas facile pour moi, à la fois de de partir de chez moi, où je suis grandi, où j'ai fait toute ma vie là-bas.
Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza.
C'était Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, où je suis grandi. C'était jamais abordé sur mon dictionnaire de partir de Gaza. Mais là, on est devant la mort, on est devant la destruction, des massacres quotidiens permanents depuis le 7 ou le 8 octobre. J'ai pris la décision et aujourd'hui, je me trouve ici en France avec ma famille, ma femme, mes trois enfants. Physiquement, je suis là, mais toujours, j'ai ma famille là-bas. Mes proches, mes amis, mes étudiants, toute la vie que j'ai connue, que j'ai documentée. Malheureusement, tout ce que j'ai vécu à Gaza pendant 38 ans, c'est incomparable par rapport à ce que j'ai vécu pendant les 5 mois où j'ai resté à Gaza. Aujourd'hui, j'ai toujours les images de Gaza qui défilent devant moi, les visages des gens que j'ai rencontrés, les amis, les proches. Et je ne sais pas quand est-ce que ce cauchemar, dont le cauchemar, il va finir. J'espère que cette guerre cesse, parce qu'en fait, chaque instant, chaque minute, elle compte la vie des civils, des innocents, des femmes, des enfants, des gens, des talents, des personnages même que j'ai filmés, ils sont morts, des techniciens avec lesquels j'ai travaillé, ils sont tués, des étudiants que j'ai enseignés à l'université, ils n'ont plus aujourd'hui parmi nous. C'est dur de parler de tout ça, mais on est devant une réalité très très dure aujourd'hui que Gaza, qu'on a connue, elle n'est plus.
Comment est-ce que vous avez réussi à mobiliser une équipe sur place pour tourner les scènes, rencontrer les personnes qui sont celles et ceux que l'on voit dans votre film documentaire pour l'honneur de Gaza ?
En fait, depuis le début de la guerre jusqu'à mois de février 2024, j'ai travaillé, moi, personnellement, avec mes équipes là-bas. J'ai travaillé à la fois pour des médias francophones et suisses. Et puis, j'ai commencé à tourner mes films et aussi mon travail pour les news. Mais une fois que je suis sorti de Gaza, avec plusieurs tentatives aussi d'échecs, parce que j'étais interdit de sortir de Gaza pour rejoindre ma femme et mes trois enfants qui sont partis au mois de novembre 2023. Donc une fois que je suis sorti en février 2024, j'ai continué, j'ai travaillé avec mes équipes sur place à Gaza, c'est-à-dire j'ai fait le scénario ici, je propose des questions, je demande les plans de découpage et j'envoie à mes collègues, confrères et consœurs à Gaza et aussi à un fixeur d'aller sur le terrain pour filmer les personnages. Eux, ils filment là-bas et puis ils m'envoient les rushs ici. On a fini aussi la post-production ici en France. Ça a duré plusieurs mois, même ça a dépassé un an, tout le travail, parce que pratiquement on avait commencé dès le début de la guerre jusqu'à la première trêve qui est suspendue avec la violation, avec l'irrespect de côté israélien de cette trêve. C'est comme ça que j'ai pu continuer, sans aussi en prenant en considération les difficultés pour travailler sur le terrain, les risques, l'envoi des roches, le manque de matériel. C'était un travail commun, très important, avec des gens qualifiés sur place à Gaza.
Des images filmées pour beaucoup avec des téléphones portables, alors qu'elles sont très belles, si tant est qu'on puisse employer cet adjectif. Les lumières sont magnifiques, les plans sont très beaux. Avec les moyens que vous avez réussi avec vos équipes sur place à créer des images très touchantes et très belles. Est-ce que ce sont les mêmes personnes que vous aviez rencontrées pour Gaza Stories que vous suivez dans Pour l'honneur de Gaza ?
Donc il y en a plusieurs personnages que j'ai voulu filmer pendant la guerre, mais malheureusement, ils étaient tués. Par exemple, là, je me souviens d'un rappeur qui était au fauteuil roulant et il est mort à cause de manque de soins. Il était interdit de sortir de Gaza le temps qu'il faut, mais malheureusement, il est sorti très tard pour se soigner et il est mort. Il y avait un autre monsieur qui était de Gaza City, qui a rendu son quartier tout beau. Il a fait des dessins, des couleurs. Il a été détruit le quartier et le mec, il a été Towé. Et je voulais filmer tous ces personnages, mais malheureusement, il y en a certains qui ont été Towés. Et là, j'ai pu filmer d'autres personnages que j'ai filmés avant la guerre. Et maintenant, je suis retourné les voir après la guerre. Là, je parle d'un chef cuisinier qui était dans les meilleurs restaurants à Gaza, qui travaillait. Et là, on le voit, il est en train d'organiser et de cuisiner dans les cuisines communautaires ou solidaires pour les gens déplacés. J'ai filmé aussi la fameuse journaliste palestinienne Wissam Yassine, avant la guerre, qui était comédienne, qui était une femme d'affaires, qui était aussi une journaliste. Et là, on revient en Verdal pendant cette situation. On voit les doubles... les doubles responsabilités très chargées, comme un maman qui doit soigner, prendre en charge ses enfants et son travail aussi.
Beaucoup d'adultes qui ont des charges d'âme.
Au cours des dernières années, j'ai pu avoir la qualification de spécialiste en fabrication de marionnettes, de formateur et d'animateur. En même temps, j'ai utilisé le théâtre de marionnettes pour soigner les enfants, en leur présentant la marionnette comme un être avec lequel communiquer facilement. Je me souviens comme la fabrication de la première marionnette pendant la guerre a été difficile. Car avant la guerre, c'était assez facile de fabriquer une marionnette. Les matériaux de base étaient disponibles, les outils aussi. Mais pendant la guerre, tout a disparu.
Ce marionnettiste Youssef Alindi, qui est sculpteur à l'origine, qui s'est spécialisé dans la fabrication de marionnettes pour le théâtre, il faut raconter l'histoire de l'une de ces marionnettes, Iyad Alastal. Youssef, c'est le nom qu'il a donné à cette marionnette qui est connue de tous les enfants aujourd'hui qui ont eu la chance de croiser la route de ce marionnettiste.
En fait, ce marionnette qui s'appelle Youssef, c'est une vraie histoire d'un enfant qui a été tué au début de la guerre. Et cet enfant, à la suite du bombardement, les secouristes, ils sont venus, ils ont évacué les morts, les blessés. Et sa maman, elle est venue à l'hôpital pour chercher son fils, qui avait 6 ou 7 ans. Et... elle n'avait pas les mots pour dire ou pour décrire, pour demander à ce que vous avez vu mon fils, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à l'hôpital. Donc elle a donné des signes, des indices pour identifier son fils. Elle a dit, est-ce que vous avez vu un fils, un enfant qui est tout beau, avec des cheveux bouclés. Blanc. Elle a dit comme ça, d'une façon d'un maman qui voit toute la beauté de son fils. Et du coup, le marionniste Youssef, le personnage de cet épisode, il a décidé de fabriquer toute une marionnette qui a donné le nom de Youssef. Et pour raconter cette histoire aux enfants de Gaza, qu'est-ce qu'elle a vécu pendant la guerre, comment c'est passé et comment c'est fini. Et on voit à travers de cette marionnette beaucoup, beaucoup de tragédies qui se déroulent à Gaza, qui ont très, très marqué. Et c'est très important pour ce marionniste d'utiliser les marionnettes pour transmettre des messages et récite aux enfants de Gaza qui vivent une situation dramatique.
Et notamment ce petit Youssef dont la maman en effet disait aux secouristes, aux médecins de l'hôpital, est-ce que vous avez vu mon enfant qui a les cheveux bouclés, blonds et doux? Et elle le répétait inlassablement, mon enfant a les cheveux blonds, bouclés et doux. Et en effet, cette petite marionnette a ses cheveux comme ça. Le marionnettiste a utilisé les bandages qu'il avait aux pieds suite à une blessure, la gaze, le coton pour fabriquer cette marionnette-là. Véronique Bonton, vous l'avez vu, le documentaire d'Iyad Alastal, qui ne suit pas que des artistes, mais on voit combien ceux-ci sont mobilisés pour rendre service, pour faire sourire. C'est leur réponse à ce qu'on appelle dans le livre que vous avez co-dirigé avec Stéphanie Latabdallah, l'écologie de siège.
Oui, alors effectivement, c'est difficile de rester indifférent à la vue du documentaire d'Iyad, il faut quand même le dire. Je me permets de dire que ce que je trouve très beau dans ce documentaire, c'est précisément, comme on l'a dit, qu'il montre la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on restitue une humanité aux Palestiniens et aux Palestiniennes, c'est qu'on montre leur humanité qu'ils n'ont en fait jamais perdue au fil des tragédies. Enfin, des guerres qui se sont abattues contre eux et dont 2023 n'est pas le début. Mais effectivement, ce qui est très intéressant de voir dans la communauté artistique, mais c'est aussi le cas en fait des autres corps professionnels de la bande de Gaza, c'est cette déjà c'est une très importante volonté de transmission qui repose sur en fait une connaissance de sa propre histoire. C'est-à-dire que quand on regarde ce film, on voit que toutes les personnes parlent de la bande de Gaza comme d'un endroit beau, où les liens sociaux sont beaux, on est au bord de la mer. C'est vraiment la beauté que les gens retiennent. Et c'est très important pour des enfants notamment, et donc c'est pour ça qu'on voit bien ce mécanisme de transmission des adultes aux enfants qui est présent dans tout le film en fait, que ce soit à travers le soin, que ce soit à travers l'apprentissage de la musique, que ce soit à travers les espaces récréatifs et le fait de cultiver les imaginaires. C'est que pour des enfants qui sont nés, mettons, qui ont 7, 8, 9, 10 ans, en fait, qui n'ont connu qu'une succession de... qui sont nés sous le siège, 2007, qui ont connu une succession d'agressions sur la bande de Gaza, qui culmine aujourd'hui la guerre génocidaire qu'on voit actuellement, c'est en fait de garder la mémoire, de garder vivante la mémoire d'un endroit qui n'était pas voué à être détruit et qui n'était pas voué à connaître ce destin, et ainsi que un espoir dans la manière de continuer à vivre malgré tout. Certains disent dans les interstices, moi je pense que c'est pas que dans les interstices, mais c'est à partir de toutes les petites choses de la vie, ce que montre également un chapitre de notre ouvrage, donc de Omar Jarbali Salamanca et Mouna Dajani, deux auteurs autrices palestiniens et palestiniennes, qui effectivement parlent de cultiver le siège et même d'assiéger le siège, c'est-à-dire de trouver la vie là où elle se loge partout. Alors en l'occurrence, dans leur chapitre, ils parlent d'une économie agricole solidaire où toute une famille d'anciens agriculteurs cultivent la mauve en fait pour pouvoir réussir à nourrir les gens aux alentours. Et donc on voit bien qu'à partir d'une micro-culture en fait, il y a aussi des formes de solidarité qui se partagent. Et en fait, à travers le soin, la culture matérielle, bah, c'est aussi la solidarité, l'amour, la transmission et la culture de la vie quoi, qui continue.
Pour l'indépendance, l'autonomie alimentaire que certains essayent de préserver dans des petits espaces comme ça de la guerre de Gaza, il y a des fils qui maintiennent ensemble des fragments de terre, écrivent les autrices de cet article, et à Gaza, des notes aussi qui essayent de maintenir ensemble des fragments de vie.
Je m'appelle Ahmed Abou Amcha et je suis coordinateur des activités musicales de l'Institut Edward Said dans la région du Sud. J'enseigne la guitare et la chorale. Je suis aussi auteur et compositeur. Quand j'ai été contraint de partir de Beit Hanoun dans le nord de Gaza, il a fallu partir soudainement car la situation était très dangereuse. Nous n'avons donc rien pu emporter, nous sommes partis pieds nus. En arrivant ici, j'ai galéré pour trouver des instruments. J'ai cherché pendant 3 mois une guitare, puis nous avons réparé un oud qui était cassé. Quand j'étais déplacé à Rafah, un jour où j'étais très déprimé, j'ai pris ma guitare et j'ai commencé à jouer et à chanter. Les enfants m'ont entouré et nous avons chanté ensemble, puis d'autres enfants sont arrivés et nous avons tous oublié que nous étions en guerre. J'ai compris que nous devions continuer à vivre en créant une ambiance de joie malgré la guerre. C'est comme ça que j'ai commencé à enseigner la musique aux enfants dans les camps.
Alors parlez-nous de cet auteur-compositeur Ahmed, Monsieur Alastal, sa guitare qui embarque avec elle les jeunes du camp de Tente. Ce serait malvenu de faire le parallèle avec le joueur de flûte de Hamelin qui lui n'était pas bien intentionné, mais c'est vraiment l'image qu'on a, lui avec sa guitare et tous les jeunes derrière lui qui le suivent pour aller chanter et faire de la musique avec lui. Jouer pour lui et pour les autres, c'est vraiment la responsabilité dont il se sent investi.
En fait, les Palestiniens sont comme les oiseaux de Phénice. C'est-à-dire, au milieu de décembre, il sort à chaque fois pour décrire leur volonté, leurs attachements à la vie. Et beaucoup de choses qui me frappent dans beaucoup de scènes. C'est pas qu'avec le scène musical d'Ahmed. Quand on voit aussi des danseurs de danse folklorique palestinien, ils utilisent l'héroïne pour danser, pour envoyer et transmettre un message d'amour, un message d'attachement à la vie. C'est le cas aussi d'Ahmed qui utilise aujourd'hui cette musique pour enseigner, pour décharger aussi la stress des enfants. Il utilise cette musique pour donner un peu d'espoir au milieu de tout cet désespoir dans la bande de Gaza. Il utilise la musique avec les enfants et se balade entre les tentes, et entre les lieux bombardés. Il a pris, il est arrivé avec un guitare, il a débrouillé, il a bricolé aussi un autre instrument. Et quand il a trouvé une efficacité pour ce travail, parce qu'on voit dans ce chapitre comment les autres enfants, les autres jeunes, ils ont rejoint ce musicien, parce qu'ils voient qu'avec la musique, il y a une vitalité très importante qui pourra changer les choses. Et déjà, on utilise, nous, les Palestiniens, en général, la musique, l'art, la littérature, comme un langage pour parler au monde entier, qu'on ne sent pas différent des autres, qu'on est pareil, qu'on est attaché à la vie, qu'on aime faire la musique, qu'on aime cuisiner, qu'on est...
Ahmed, il dit qu'avant la guerre, il vivait bien, il avait deux maisons et que là, il doit recommencer en dessous de zéro. C'est son expression, comme de dire qu'il y a... il parle de sa musique comme voulant faire oublier aussi le son des drones qui a beaucoup perturbé les enfants au début quand ils se sont mis à apprendre à jouer de la musique avec lui. Ils n'arrivaient pas à se concentrer parce que le son des drones les déconcentrait. Donc il dit, il y a un son qui peut te rendre heureux, un autre t'attrister et un autre qui peut te tuer. J'espère que les inventions de l'homme viseront toujours la joie des autres. رجعيني يا هوى رجعيني يا زهرة البساتين رجعيني يا هوى على دار الهوى على نار Ces enfants qui viennent donc jouer un petit peu de musique et chanter autour d'Ahmed. On dit aujourd'hui, Véronique Bontemps, l'UNESCO le dit, l'UNICEF le dit, près de 660 000 enfants en âge d'être scolarisés aujourd'hui à Gaza sont sans école. Est-ce qu'on sait si certains réussissent à mettre en place une forme d'école rudimentaire avec les moyens du bord, des professeurs, des enseignants qui sont là dans les camps et qui tentent d'organiser quelque chose?
Oui, alors effectivement, l'une des conséquences, c'est pas uniquement une conséquence, d'ailleurs ça fait partie de cette guerre, hein, d'empêcher, de détruire le système scolaire, de détruire les universités, ce qui a été qualifié de scolasticide par...
Par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et du CID et scolarticide.
Voilà, donc il faut rappeler aussi que en 2023 et même avant cette dernière guerre, la société palestinienne était l'une des sociétés les plus scolarisées au monde. Hein, environ 98% de la population des enfants sont étaient scolarisés.
Chiffre qui date de 2022, donc bien après le blocus.
Tout à fait.
Malgré le blocus, on a réussi à maintenir
oui,
ce niveau de scolarisation.
Oui, parce que, si vous voulez, c'est en grande partie grâce au tissu communautaire et puis aussi grâce aux services de l'UNRWA qui sont en fait une infrastructure quasi étatique qui permettent, former essentiellement de Palestiniens, d'ailleurs de gens expérimentés sur place qui connaissent le coin et qui donc peuvent s'occuper donc de l'éducation des réfugiés. Alors pour en revenir à votre question, Oui, effectivement, il y a des formes d'organisation communautaire, solidaire, et ça date pas en fait de la dernière guerre de 2023, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ce taux de scolarisation a pu être maintenu et a pu, malgré les différentes agressions sur Gaza, en fait, c'est des choses que les Palestiniens connaissent depuis des décennies maintenant. Je prendrai pour exemple la première intifada, donc fin 88-89, en fait, au moment où donc cette guerre des pierres qui est connue, mondialement connue comme étant cet affrontement entre des chars et des enfants. Et donc les écoles en fait palestiniennes ont été fermées pendant des mois. Et ça a été, il y a eu tout un mouvement de la société civile pour justement organiser des cours à la maison. Alors là, je ne parle pas seulement de Gaza, mais aussi toute la Cisjordanie, en fait, pour organiser une sorte d'école, des écoles alternatives. Et en fait, c'est des choses qui se sont reproduites dans la durée, aux différents moments d'explosion violente de la situation de colonialisme rampant qui ne cesse jamais en réalité. Donc à chaque fois, si vous voulez, il y a vraiment un savoir-faire de comment pouvoir se réunir. Alors on voit bien dans le documentaire d'Iyad que on a ce déplacement de tente en tente, certaines familles qui ont été déplacées 5 fois, 10 fois, 20 fois, mais qu'il y a toujours moyen de se retrouver entre voisins pour transmettre du savoir. Et puis notamment maintenant, même si Internet est un petit peu limité, il y a aussi la technologie en ligne qui permet et qui est utilisée au maximum en fait, pour faire ça.
Et les universités, d'ailleurs, 12 universités, les 12 universités ont été détruites à Gaza et des centaines de professeurs tués. 3 universités ont lancé des programmes d'enseignement en ligne, suivis chaque jour par des milliers d'étudiants quand ils arrivent à trouver une connexion. Un tout juste diplômé racontait récemment au Monde qu'il avait passé ses examens dans la rue pour avoir de la connexion. Israël a accusé certaines universités d'abriter une fabrique d'armes et d'explosifs du Hamas. Et à tous ceux qui, au plus haut niveau, ont demandé au gouvernement israélien d'en apporter la preuve, il n'y a jamais eu de réponse, d'où ce terme employé par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un scolarticide, un éducide pour cette jeune étudiante que vous avez suivie, Iyad Alastal, elle s'appelle Nour, elle avait commencé des études d'architecture et la vie lui souriait, dit-elle. Aujourd'hui, elle a dû tout arrêter, mais elle espère qu'elle continuera à étudier.
Mon rêve a toujours été de devenir architecte, car l'architecture rassemble l'art, la créativité et la construction. J'aime dessiner et concevoir des espaces, surtout que nous vivons toujours sous la pression de la guerre et des destructions. Pour moi, l'architecture est un message de vie. Mon rêve a toujours été de participer à la reconstruction de la bande de Gaza, parce que pendant des années, nous avons observé tellement de destruction et de ruines dans notre vie.
Son passeport à Nour arrive à expiration et comme il n'a jamais servi, elle a décidé de dessiner dessus parce qu'elle sait qu'elle ne voyagera jamais. Elle a dessiné les lieux qu'elle rêvait de visiter, Doha au Qatar, la Tour de Pise, le Japon, Istanbul qui est le premier pays où elle rêvait d'aller, Paris où l'architecture raffinée, dit-elle, aurait pu nourrir mes idées et mes projets. Ces lieux à la fois d'éducation, de diplôme, mais aussi d'art. Tout est détruit, tout est fermé aujourd'hui, et y compris à Gaza où sont tournées toutes les scènes pour l'honneur de Gaza, Iyad Alastal.
En fait, la bande de Gaza, elle est connue depuis longtemps comme une grande prison à ciel ouvert. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une grande cimetière ouverte. C'est-à-dire que le problème de déplacement pour les Palestiniens avant la guerre, c'était très très présent. On ne peut pas voyager librement, on ne peut pas décider 2 jours, 3 jours avant de prendre, de traverser la frontière, après ça aller en Égypte, prendre l'avion, parce qu'il y avait beaucoup de restrictions. Et donc ça décrit la souffrance des Palestiniens qui date des années et des années, surtout à Gaza. Et là on voit avec Nour Ramlaoui qui a fait ses études depuis l'âge de 3 ans ou 4 ans, depuis le maternel, jusqu'à 22 ans. Et là, elle a des rêves, elle a des stages professionnels, elle doit aller découvrir, elle doit tenir ses droits légitimes qui étaient accordés par le monde entier, par l'ONU, la facilité de déplacement, de circulation. Et là, elle se trouve dans la guerre. Tous ses rêves, tous ses projets, ils sont fondus, ils sont détruits. Et là, elle utilise tout simplement quand elle a totalement désespérée de la situation, qu'il n'y ait plus de chance pour elle de voyager. Elle utilise son passeport pour envoyer aussi une image qui n'est pas facile, qui est très forte, que vous n'avez pas à me laisser voyager, mais moi, avec mon imagination, avec mes idées, je veux voyager. J'ai dessiné le slogan, la devise de chaque pays sur chaque page de mon passeport parce que j'avais des rêves, j'avais des projets à visiter ces pays.
Il y a les artistes et les Gazaouis tout court, enfin je veux dire qu'ils ne sont pas nécessairement dans une démarche artistique, mais qui ont pu quitter Gaza sans y revenir. On est évidemment pas du tout dans la démarche de voyage à laquelle rêvait Nour. Il y a aussi, chez les artistes en exil, Véronique Bontemps, cette écologie de la résistance dont vous nous parliez tout à l'heure.
Oui, oui. Alors avant de répondre à cette question, je voulais quand même faire une remarque, parce que je pense qu'on est aussi là pour dire ça aujourd'hui, c'est que la bande de Gaza, c'est une prison à ciel ouvert, mais ça n'a pas toujours été comme ça, et il y a quand même une série d'événements qui ont mené à cette situation. Donc les Gazaouis ne sont pas historiquement nés dans la souffrance. La bande de Gaza, il y a des dizaines d'années, avant la création de l'État d'Israël, avant l'occupation israélienne de 1967, c'était un espace urbain foisonnant, avec une vie culturelle très importante. C'est l'un des premiers endroits dans la région où il y a eu des cinémas. Donc en réalité...
Là, ils sont détruits, les cinémas.
Exactement.
Et Nasser, en fait, dans la ville de Gaza.
Voilà, donc les souffrances des Gazaouis, d'ailleurs celles des autres Palestiniens, sont dues au fait qu'on les empêche de développer leur culture. S'ils ne peuvent pas voyager, c'est pas parce qu'ils s'en sont incapables. Désolée, ça paraît évident, mais c'est parce qu'on les empêche et qu'on les soumet à des restrictions multiples de situation, c'est-à-dire le gouvernement israélien à l'issue de cette guerre actuelle, mais après des années de colonialisme.
Il y avait quand même eu des centres d'art contemporain qui avaient ouvert à Gaza dans les années 2000, quelque chose qui existait, des artistes qui disaient aussi qu'ils arrivaient à se fournir en matériaux pour leurs œuvres.
Oui, alors tout à fait. Effectivement, ce qui est vraiment... ce qui est assez exceptionnel, c'est que cette vie culturelle, elle a continué à exister, en fait, dans la bande de Gaza et dans le reste de la Palestine, mais de manière assez marquée dans la bande de Gaza, malgré le siège. Donc, je pense que c'est en partie un héritage de cette histoire, de cette longue histoire urbaine et aussi de cette longue histoire de transmission orale, de scolarisation, etc. Et aussi parce que, comme Yad l'a rappelé tout à l'heure, finalement, la création artistique, l'imaginaire, c'est des moyens universels de se redonner de l'espoir dans des situations dramatiques. Et le travail artistique fait partie, et c'est aussi un travail de documentation. C'est ça qui est intéressant, et donc ça me permet de faire la transition vers votre deuxième question, ce qui fait que les artistes aujourd'hui, alors il n'y a pas que des artistes qui sont en exil, bien sûr, mais les artistes de Gaza qui sont aujourd'hui dans différents pays, notamment en France, c'est vrai que je peux pas parler à leur place, mais en tout cas en les écoutant, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment investis d'une mission de transmission qui en l'occurrence consiste aussi à montrer Gaza comme un espace de vie et un espace détruit et non pas un espace structurellement rempli de victimes ou de terroristes, vous voyez. Et donc de montrer également, puisque ça fait quand même des décennies que Gaza est soumise à des conditions économiques extrêmement dures, indépendamment de la question des bombardements et des drones, mais bon, le siège économique, l'activité économique, le taux de chômage, c'est de montrer en fait, de documenter à quel point on peut faire beaucoup de choses à partir de pas grand-chose, quoi. Enfin, voilà.
Il y a parmi les artistes en exil, cet homme qui a exposé à la Biennale de Berlin, c'était l'année dernière, je crois. Il s'appelle Taïsir Batniji, et puis il avait exposé 200 images de trousseaux de clés, des photos sur fond blanc, des clés qui n'ouvriront plus rien. Et il racontait à Libération la difficulté qu'il a eu à demander à ses amis de lui confier leur trousseau de clés, même le temps d'une photo, tellement cet objet est lourd de sens. Lui a fait ses études à Bourges à la fin des années 90 et il n'a jamais pu rentrer à Gaza. Alors Alors il a reproduit son propre trousseau de clés en verre. C'est vrai que dans votre film, il y a à la Stal, celles et ceux qui se retrouvent dans cette mer de tente sur la plage de la ville de Gaza croisent ceux qui vivaient à Gaza et qui n'en sont jamais partis, comme le vieux pêcheur qu'on a d'ailleurs écouté dans notre émission hier. Mais tous partagent une même peur, celle du déplacement, qu'ils y soient confrontés ou qu'ils aient décidé de se l'épargner. Le pêcheur vous dit « on regrette d'être parti en 48, on ne le refera pas ». Alors je ne sais pas quel âge a ce monsieur, mais il ne me paraît pas avoir beaucoup plus que 77 ans, donc il était tout jeune lors de la Nakba. Cette mémoire-là, elle est toujours là, partout. Cette mémoire du départ.
Le mémoire du départ, ça existe chez les Palestiniens tout le temps, parce que moi, déjà, je suis originaire de Gaza, je ne suis pas réfugié, mais là, je vis cette situation. Mais nous avons, il y a eu tout c'est pas apprentissage, cet héritage qui a été transmis par les grands-parents, le droit de retour, le clé de retour, ce sont des slogans, ce sont des résolutions qu'on connaît par cœur depuis l'enfance, et ça restait toujours ancré dans la tête. Et du coup, aujourd'hui, vive, parce qu'avant, quand les grands-parents, les ancêtres, ils ont parti de chez eux, ils ont pensé que ça va durer une semaine, deux semaines, et vont retourner. Mais là, ça durait combien? 75 ans. Et donc, une décision de quitter chez soi, de partir sans vision, et déjà sortir où? Dans la bande de Gaza. Parce que toutes les coins de la bande de Gaza, ils subissent des bombardements, des attaques israéliennes. Il n'y a pas d'endroit sûr. Et pour ça, les gens, ils ont préféré de ne pas sortir parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir retourner. Et ils ont vécu ça pendant presque un an. Ils ont été déplacés dans le sud de la bande de Gaza. Israël les a interdits de retourner. Et là, c'est un droit primordial pour eux de rester chez eux parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de rester chez soi.
Véronique Bontemps, la majorité de la population gazaoui est constituée de réfugiés de la Nakba et c'est une mémoire qui se transmet dans les familles de génération en génération.
Oui, bien sûr. En effet, la majorité de la population de Gaza, comme vous l'avez dit, est constituée de réfugiés, donc de gens qui... pendant la guerre de 1947-48-49, ont quitté leur ville ou leur village d'origine pour se réfugier dans la bande de Gaza, comme d'autres sont partis soit en Cisjordanie, soit au Liban, soit en Syrie. Comme Yad l'a rappelé, c'est des gens qui pensaient partir pour une courte période et qui finalement se sont retrouvés coincés dans un temporaire qui est devenu permanent. Et donc aujourd'hui, bien sûr, la population de Gaza, tout comme d'ailleurs d'une manière un peu différente en Cisjordanie, mais les familles et les personnes connaissent leur histoire et ils savent très bien ce qui va se passer s'ils s'en vont en fait. Bon, alors évidemment, ils n'ont pas le choix. Dans la plupart des cas, il faut quand même qu'ils sauvent leur vie, donc ils se déplacent sur un tout petit territoire. Mais ça explique aussi, comme l'a dit Iyad, pourquoi certaines personnes décident de ne pas partir, puisque de toute façon, ils savent très bien qu'il n'y a pas d'endroit sûr où aller. Et effectivement, cette mémoire, cette transmission, en fait, de ce qui s'est passé. La Nakba, c'était vraiment un événement structurant, fondateur, même s'il n'est pas fondateur de tout, mais dans l'histoire et dans la transmission palestinienne. Et c'est là que la culture et l'art sont vraiment des éléments importants, parce que la mémoire, elle se transmet à travers la circulation d'idées, mais aussi de symboles. Et la clé, ça fait partie de ces symboles, la clé du retour. C'est-à-dire que c'est des objets comme ça qui vont permettre de cristalliser et de transmettre plus facilement. Tout le monde en Palestine, la plupart des gens, des réfugiés, ont une clé, en fait, d'une maison qui n'ouvrira plus jamais rien. Puisque, tout comme les clés de Taïsir Batniji n'ouvriront plus jamais rien à Gaza, la clé de ces réfugiés n'ouvriront plus aucune porte, puisque pour la plupart, ils viennent de villages qui ont été tout simplement rayés de la carte au moment de la Nakba. Donc si vous voulez, la disparition, l'effacement des traces et de la mémoire, c'est quelque chose que les Palestiniens connaissent très bien et dans lequel ils vivent depuis toujours.
Alors avant de parler de la destruction aussi du patrimoine à Gaza avec l'historienne Anne-Marie Hédé qui va entrer nous rejoindre dans ce studio, peut-être une dernière question sur l'identité gazaoui. Alors on sait qu'il y a bien sûr un projet national de Palestine, un sentiment d'appartenance à la Palestine, mais est-ce que la guerre ravive un sentiment d'appartenance à Gaza, Iyad Alastal? Se sentir de Gaza, vraiment.
Bah, Gaza reste toujours un département ou une géographie de tout l'État palestinien. Et au fil de l'histoire, elle a été occupée, elle a été dominée. Et puis, il y a eu deux retraites, il y a eu beaucoup de changements politiques du régime. Mais elle restait toujours avec son identité, que c'est un territoire palestinien. C'est le même peuple qui se trouve en Cisjordanie ou à l'étranger. Mais malheureusement, il y a cette déchirement géographique qui fait détruire l'identité palestinienne, mais ils n'arrivent jamais parce qu'il y a les mêmes toujours aidés, il y a les mêmes cultures de deux côtés, de tous les Palestiniens.
Véronique Bontemps, la guerre ravive, la destruction ravive l'appartenance, un sentiment d'appartenance. Dans les œuvres d'art, par exemple, que vous avez pu voir, que des artistes palestiniens vous ont montré.
Je pense que oui et non, dans le sens où l'appartenance locale, c'est de toute façon quelque chose qui est important dans la culture palestinienne de manière générale, mais comme ça l'est pour tout sentiment d'identité, d'appartenance collective, j'ai envie de dire. Gaza, tout comme on dit la bande de Gaza maintenant, mais avant c'était pas une bande, c'était pas une enclave. Tout le monde dit l'enclave maintenant, mais il fut un temps que c'était pas une enclave, c'était une ville avec un port. Et comme d'autres, Gaza faisait partie. Fait partie du territoire de la Palestine historique, la Palestine mandataire, comme la Cisjordanie, comme l'actuel État d'Israël. Donc je pense que le niveau... Bien sûr qu'il y a eu un sentiment d'attachement local, mais qui est aussi dû au fait que la plupart des habitants de Gaza, ceux qui ont aujourd'hui, qui ont 20 ans, ils sont jamais sortis de la bande de Gaza, et ça, c'est dû à une pression extérieure. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que Gaza fait partie de toute la Palestine.
Il y a cet artiste palestinien qui exposait récemment des affiches touristiques, qui faisait la promotion de Gaza comme d'une destination touristique, pour prendre au pied de la lettre les divagations de Donald Trump, montrer ce qui aurait pu être et ce qui a été perdu. Et pour conclure cette première partie, je voulais citer un enfant qu'on entend, Iyad Alastal, dans votre film. Un enfant qui suit les cours de musique d'Ahmed et qui dit « Quand je reviendrai dans ma ville, même sur les ruines de ma maison, je jouerai de la musique. » C'est la musique que l'on entend à la toute fin de votre documentaire Iyad Alastal, un poème d'Ibrahim Toukan qui a été le forme de premier hymne palestinien. On voit des milliers de gens qui marchent sur le front de mer, chargés avec leurs matelas roulés sur le dos. C'est le départ quand est annoncée la trêve en janvier dernier et que les gens pensent que c'est le moment de partir, c'est ça?
C'est le retour vers l'inconnu, le retour vers Gaza qui était dévasté après avoir... se déplacer au moins un an.
D'accord, donc on peut espérer, on peut imaginer que ce sont des images de retour, mais non, ce sont quand ils arrivent. Je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de votre film. Vous restez avec nous, Iyad Alastal, Véronique Bontemps. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série sur Gaza. Regardez Gaza en face. Aujourd'hui, voix, visage et mémoire de Gaza, car outre les pertes humaines sans précédent causées par la guerre en cours, des milliers de bâtiments sont totalement détruits, y compris des sites patriotiques patrimoniaux, historiques, archéologiques et culturels.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Il y avait un musée ici, il y avait de la vie ici. Et il y avait la preuve de l'identité palestinienne à travers les antiquités, le patrimoine, les sculptures, les livres et tout ce qui prouve l'identité palestinienne. Bien sûr, le bâtiment a été brûlé et beaucoup d'antiquités ont été perdues. Mais le musée en abritait environ 2000.
À Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, l'archéologue Ramadan Ahmed tente de préserver ce qui peut l'être du fort du XIVe siècle, la citadelle de Barkouk. Que ce soit sur place ou à distance, tout un réseau de volontaires s'est mis en place pour que ne disparaisse pas le très riche patrimoine archéologique et architectural de Gaza. Bonjour Anne-Marie Aidé.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne spécialiste de la Syrie et de la Palestine médiévale. Et vous êtes membre du projet Gaza, inventaire d'un patrimoine bombardé, lancé en mars 2024, donc en pleine guerre, par le directeur de recherche au CNRS Fabrice Virgili, entre autres. De quel patrimoine s'agit-il de faire l'inventaire ?
Il s'agit d'un patrimoine extrêmement riche, mais peut-être que avant de parler de ce patrimoine, je pourrais dire quelques mots sur pourquoi s'intéresser au patrimoine quand on voit la tragédie actuelle qui se déroule à Gaza sous nos yeux, les dizaines de milliers de morts, les enfants affamés ou amputés sans anesthésie. Pourquoi s'intéresser à des vieilles pierres ? Et je pense qu'il est très important de dire que la destruction du patrimoine est indissociable de l'anéantissement actuellement de la terre de Gaza et de sa population. Parce qu'il s'agit, en détruisant le patrimoine, il s'agit d'invisibiliser les Palestiniens. D'invisibiliser les Palestiniens, selon d'ailleurs une phrase qu'a prononcée le ministre des Finances Smotrich il y a trois ans, israélien, en 2023 à Paris, ici même, lorsqu'il a dit « Les Palestiniens sont une invention d'il y a moins de 100 ans, ils n'ont ni culture ni histoire, ils n'existent pas ». Et donc détruire le patrimoine vient en fait à l'appui de ce genre de déclarations dans lesquelles on veut montrer que les Palestiniens n'existent pas, qu'ils n'ont pas d'histoire, qu'ils n'ont pas d'identité, qu'ils n'ont pas de passé. Et cela me fait penser à une phrase qu'a prononcée le ministre ukrainien devant le congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe en octobre dernier, et qui a dit « détruire la culture ukrainienne, c'est détruire la nation ukrainienne. » Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le patrimoine à Gaza. Détruire le patrimoine, c'est détruire l'identité palestinienne. C'est leur enlever toute référence au passé, c'est les empêcher de vivre leur présent et c'est également oblitérer leur avenir et leur futur.
De la même façon que les privations de la population palestinienne n'ont pas commencé en octobre 2023, la destruction du patrimoine palestinien n'a pas commencé non plus lors de cette guerre-là. Beaucoup d'objets n'étaient plus à Gaza depuis longtemps. Les sarcophages égyptiens retrouvés à Deir el-Bala par une fouille israélienne et que l'ancien ministre israélien Moshe Dayan avait confisqué illégalement pour sa collection personnelle. Ils sont aujourd'hui dans un musée israélien. L'UNESCO évalue aussi à plus de 1000 le nombre de sites archéologiques et monuments palestiniens détruits pour ériger le mur de séparation à partir de 2002. Maintenant, du travail que vous êtes en train d'effectuer de recensement du patrimoine détruit depuis octobre 2023, où en êtes-vous de ce travail-là qui se base à la fois sur des photos satellites, sur des documents qui existaient avant, sur des rapports institutionnels? Où en est ce travail-là?
Alors, ce travail-là avance progressivement. Gaza est une des plus anciennes villes du Proche-Orient. Il y a une quinzaine de civilisations qui s'y sont succédées depuis le troisième millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de la période ottomane. Et toutes ces civilisations ont laissé des traces sur le territoire de Gaza. Donc, il y a effectivement beaucoup de sites qui ont été mis au jour, notamment dans des fouilles qui ont été menées dans les années 90 par l'école biblique archéologique et archéologique française de Jérusalem, en collaboration bien sûr avec des archéologues palestiniens. Et à côté de ce patrimoine antique révélé par les fouilles, il y a tout le patrimoine islamique qui est aussi évidemment très important à Gaza, avec des mosquées, des bains, un palais de gouvernement qu'on appelle le palais du Pacha, qui a été récemment, qui avait été récemment restauré et transformé en musée. Et dans ces monuments, une très très grande partie a été soit endommagée, soit totalement détruite. Le palais du Pacha est réduit à un tas de ruines. La mosquée Al-Romari, qui est emblématique de ce patrimoine islamique de Gaza, qui porte le nom du second, du deuxième calife de l'islam, a été détruite aux trois quarts.
Elle faisait plus de 4000 mètres carrés.
Absolument. Mmh. Et c'était un monument qui datait, qui remontait d'ailleurs à l'époque croisée. C'était une ancienne église croisée qui avait été transformée et agrandie ensuite par les dynasties mamelouk et ottomane. Et il n'en reste presque plus rien aujourd'hui.
On cite souvent aussi l'église de Saint-Porphyre dans la ville de Gaza, presque totalement détruite. Cette église grecque orthodoxe datant du 5e siècle, l'une des plus anciennes au monde, qui a été endommagée quant à elle, apparemment lors d'une frappe aérienne qui visait l'hôpital proche à Al-Ahli. Le musée El Koudari de la ville de Gaza aussi, où un collectionneur avait rassemblé des objets archéologiques, mosaïques, chapiteaux, monnaies, parce qu'il y a les bâtiments, mais il y a aussi les objets qui sont à l'intérieur. Est-ce que sur place, certains, certaines essayent, est-ce que vous êtes en lien avec des personnes qui essayent de sauver ce qui peut l'être?
Oui, juste une précision, l'église Saint-Porphyre n'a pas été détruite. Les bâtiments autour ont été détruits, mais aux dernières nouvelles, heureusement, elle n'a pas été détruite. Alors oui, bien sûr, les objets, le musée El-Khoudari. Il y a d'ailleurs en ce moment une belle exposition à l'Institut du Monde Arabe qui montre une partie de cette collection El-Khoudari qui a pu être sauvée parce que ces objets se trouvaient à Genève et avaient été exposés lors d'une exposition à Genève. Donc aujourd'hui, nous avons des informations par les personnes qui arrivent à sortir de Gaza. Il y a notamment l'un des archéologues qui a travaillé avec l'équipe de l'école biblique française sous la direction de René Alter, Fadel El-Hotol, qui est réfugié à Genève avec sa famille et qui nous a rapporté des photographies d'un grand nombre de sites qu'il a pu photographier au mois de mars dernier dans la ville de Gaza.
Et il a pu sauver quelques objets, les cacher quelque part?
Alors, ils ont effectivement fait ce qu'ils ont pu, ce qui était dans leurs moyens, c'est-à-dire d'essayer de préserver les magnifiques mosaïques byzantines qui ont été découvertes à Jabalia ou dans le monastère Saint-Hilarion, qui est le plus ancien ou l'un des plus anciens monastères de Palestine. Ils ont essayé de restituer les caisses dans les dépôts archéologiques qui ont été en grande partie endommagées. Mais évidemment, on ne pourra faire vraiment le bilan de tout cela qu'une fois que les combats se seront arrêtés, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller sur le terrain pour vérifier tout cela.
Donc vous rappeliez, Anne-Marie Aidé, que le projet Gaza, inventaire d'un patrimoine bombardé, pour lequel vous êtes aujourd'hui une quarantaine de bénévoles, archéologues, historiens, sociologues, à l'objectif à la fois de garder des traces, mais l'intention, est-ce que c'est aussi de se projeter dans un avenir où les armes se taisent et où il faut restaurer, reconstruire, rebâtir?
Absolument. Ce sont les deux objectifs, c'est-à-dire garder des traces et montrer qu'il y a une culture, une histoire palestinienne, mais aussi pouvoir reconstruire le jour où ce sera possible, parce que les Palestiniens reconstruiront Gaza. Ces monuments ont déjà été détruits à plusieurs reprises. La mosquée Al-Romari a été presque entièrement détruite par des bombardements britanniques en 1917. Elle a été reconstruite à l'identique dans les années 1920. Et je pense que les Palestiniens ne partiront pas et qu'ils resteront et qu'ils reconstruiront, et nous les aiderons, je l'espère, à reconstruire leur patrimoine.
Merci beaucoup Anne-Marie Aidé, historienne spécialiste de la Palestine et de la Syrie. Gaza, inventaire d'un patrimoine bombardé, c'est le nom du projet que vous êtes venu porter ici, et le livre qui est paru aux éditions Rive Neuve, Gaza, comment transmettre le patrimoine, sous la direction de René Alter. Nous mettons les références en lien sur le site de Culture Monde. ainsi que le lien vers votre film documentaire Yad Alastal pour l'honneur de Gaza sur la plateforme MatMov. Nous mettons donc les références également sur notre site. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce matin, ainsi que vous, Véronique Bontemps. Et je rappelle le titre que vous avez du livre que vous avez co-dirigé avec Stéphanie Latabdala, Gaza, une guerre coloniale, paru chez Actes Sud dans la collection Sinbad. Merci à tous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et à la une ce matin, Catherine, de la presse internationale, le regard des éditorialistes aux États-Unis sur la surenchère militaire de Donald Trump. Il a ordonné l'envoi de milliers de soldats à Los Angeles face aux manifestants qui dénoncent des raids policiers contre les immigrés.
700 Marines désormais et plus de 4000 membres de la garde nationale sont déployés à Los Angeles. C'est le double d'hier et c'est un nouvel assaut contre la Constitution et les limites du pouvoir présidentiel, accuse un éditorialiste du Los Angeles Times. Selon lui, le président utilise l'immigration comme son épée et son bouclier après que Stephen Miller, conseiller à la Maison-Blanche, a fustigé la lenteur des expulsions d'immigrés, rapporte le journal conservateur Washington Examiner. Et cela permet aussi à Donald Trump d'imposer un nouveau récit, celui de la bataille pour l'ordre, alors que les médias s'étaient focalisés ces derniers jours sur sa rupture difficile avec le milliardaire Elon Musk, comme le souligne le Wall Street Journal, sans oublier le débat sur la loi budgétaire vu comme un énorme cadeau fiscal pour les riches au détriment de l'assurance santé Medicaid et du programme public d'aide alimentaire. Dans n'importe quel autre pays, l'envoi de soldats pour écraser la dissidence, l'arrestation de dirigeants syndicaux, les menaces contre des opposants politique, tout cela indiquerait clairement que l'autocratie est arrivée, alerte une éditorialiste du New York Times. Depuis la réélection de Donald Trump, elle redoute qu'il fasse appel à l'armée contre les manifestants, même pacifistes, contre les expulsions massives précipitant les États-Unis vers la loi martiale.
Et les arrière-pensées politiques mettent de l'huile sur le feu.
Dimanche, un homme a été arrêté pour avoir prétendument jeté un cocktail Molotov sur un policier et une telle violence doit être condamnée et poursuivie en justice, souligne l'éditorialiste du New York Times, tout comme le Los Angeles Times, à la fois parce que la violence est immorale et totalement contre-productive. Selon ces éditorialistes, chaque vitrine détruite est un cadeau fait à l'administration Trump. Mais l'idée que le président des États-Unis ait dû déployer des soldats dans les rues de Los Angeles parce que les émeutes échappaient à tout contrôle relève de la pure fantaisie. Tense Michel Goldberg dans le New York Times. L'arrivée des forces militaires fédérales en l'absence de coordination claire représente un défi logistique majeur, a alerté de son côté le chef de la police de Los Angeles. Et toujours selon Michel Goldberg dans le New York Times, les choses sont claires. Pour Donald Trump, la protection de la ville n'a jamais été l'objectif. L'administration a toutes les raisons de vouloir intimider ceux qui pourraient prendre part à la désobéissance civile. Il suffit de voir jusqu'où elle va pour réduire au silence David Huerta, le représentant californien de l'Union internationale des employés de service, arrêté après s'être assis sur un trottoir et avoir bloqué une porte alors qu'il protestait contre une descente des services d'immigration sur un chantier de Los Angeles. Il a été projeté au sol, puis hospitalisé, inculpé hier pour complot, un crime passible de 6 ans de prison, précise le New York Times et la Opinion, le premier quotidien hispanophone des États-Unis, publié d'ailleurs à Los Angeles. La présidente de l'Union internationale des employés de service, April Verrett, dénonce, elle, une menace pour la démocratie américaine. Le gouvernement fédéral ne devrait jamais être utilisé comme une arme contre ceux qui sont en désaccord avec lui, peut-on lire dans les pages de la Opinion. Une répression qui contraste, en tout cas, avec les grâces présidentielles accordées aux émeutiers du Capitole. Note le New York Times, Donald Trump avait alors choisi de minimiser la violence et parler d'une noble cause d'un traitement injuste de patriotes. Ce n'est pas anodin, selon un éditorialiste du Los Angeles Times, si Donald Trump s'attaque à la plus grande mégalopole bleue du pays et à l'un de ses ennemis, le gouverneur démocrate Gavin Newsom, dont il estime, je cite, que ce serait super de l'arrêter, comme l'avait d'ailleurs suggéré le conseiller à l'immigration de Donald Trump, rappelle MSNBC.
He's a tough guy, wasn't he, dude? He knows where to find me. But you know what?
Il veut jouer les durs, hein. Eh bien, qu'il m'arrête. Il sait où me trouver, a lancé le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, interrogé sur la chaîne télévisée MSNBC. Mais vous savez quoi? Qu'il ne touche pas aux petites filles de 4 ans qui veulent juste aller à l'école. Qu'il ne s'en prenne pas à ces pauvres gens qui essaient de vivre leur vie, qui vivent aux États-Unis et qui paient leurs impôts parfois depuis 10 ans. La peur qu'ils ressentent, l'horreur. Moi, je me soucie de ma communauté et nous devons riposter, a promis le gouverneur démocrate de Californie. États-Unis. Aujourd'hui, le président des États-Unis joue avec le feu, estime un éditorialiste du Washington Post, pour qui le ministre de la Défense, Pete Hegseth, joue lui sur les pires instincts du président, désireux peut-être de regagner les bonnes grâces de Donald Trump après le scandale des plans militaires au Yémen partagés par Mégarde, on s'en souvient, sur la messagerie Signal. Nombreux sont ceux qui pensent que l'affrontement de Los Angeles fera le jeu de Donald Trump, lui permettant de se poser en champion de la loi et de l'ordre avant les élections de mi-mandat, écrit le Wall Street Journal. Et si c'était un avant-goût même de ce qui pourrait se passer avant les élections prévues en novembre 2026, c'est ce que craint The Atlantic, que Donald Trump instrumentalise et provoque des tensions dans les États démocrates pour ensuite invoquer l'état d'urgence, des pouvoirs exceptionnels, voire suspendre le vote électoral. N'oubliez pas, si vous avez la moindre question sur cette chronique sur l'actualité internationale, une seule adresse pour nous écrire, fcrdpi@radiofrance.com. Nous vous répondrons avec un ou une spécialiste dans la chronique interactive du samedi.
Merci beaucoup Catherine Dutu.